Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour. Quelle joie de vous retrouver comme à chaque fois. J'espère que vous allez bien. Plongeons dans la catéchèse d'aujourd'hui en la confiant à la Vierge Marie, la Reine de la paix et de la réconciliation. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes dans une série de catéchèses qui regardent la question du péché. Nous avons vu une introduction. Nous avons vu dans la catéchèse précédente le péché originel et ses conséquences. Pauvre de nous, pécheur, ma mère m'a conçu, dit le psaume, c'est pas la faute à ma mère, hein ? Ah non, c'est pas sa faute. Et puis nous naissons dans un contexte de lutte, de combat spirituel. Et bien sûr, nous croyons en la miséricorde. Et nous avons, en tout cas nous les baptisés, nous avons une grâce inouïe au baptême, le péché originel, et nous sommes rachetés du péché originel. Et voilà que nous sommes forts, nous sommes armés. Et nous avons un temps à vivre sur cette terre pour laisser pousser ce que le Seigneur a semé en nous. Pour que de jour après jour, d'Eucharistie en Eucharistie, de confession en confession, de pratique de la charité en pratique de la charité, d'acte de foi en acte de foi, de prière en prière, etc., 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 tout ce qui fait la vie chrétienne, eh bien, nous prenions la taille du Christ. Le Christ prenne toute sa taille en nous. Et alors, nous avons une douce vigilance d'amour qu'on appelle la conversion. La conversion, dit le catéchisme de l'Église catholique, requiert la mise en lumière du péché. Elle contient en elle-même le jugement intérieur de la conscience. On peut y voir la preuve de l'action de l'esprit de vérité au plus profond de l'homme, et cela devient en même temps le commencement d'un nouveau don de la grâce et de l'amour. Recevez l'Esprit Saint. Ainsi, dans cette mise en lumière du péché, nous découvrons un double don, le don de la vérité de la conscience et le don de la certitude de la rédemption. L'Esprit de vérité est le consolateur. Et lorsque le Seigneur met sa lumière dans nos cœurs, ce n'est jamais pour nous condamner, pour nous culpabiliser, pour nous écraser, c'est toujours pour nous en libérer du péché, pour nous sauver, pour nous emmener à sa suite. Viens avec moi, viens, suis-moi. Parce que voilà, dans tel ou tel domaine, ben, tu n'étais pas en train de me suivre, tu étais en train de vivre ta vie, de faire ta volonté propre. Et nous l'avons vu hier, nous avons entendu un passage de Jésus à Luisa Picaretta qui nous montrait à quel point nous, justement, nous sommes devenus, avec une volonté humaine, si pauvres et malheureux. Alors bien sûr, le Seigneur est rempli de compassion, il est miséricordieux, et c'est la révélation de la miséricorde de Dieu pour nous. L'Évangile est la révélation en Jésus de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. Nous avançons dans la réalité du péché qu'encore une fois nous regardons toujours dans la lumière de la victoire de l'amour, dans la lumière de la miséricorde. Le péché, dans sa définition, telle que nous la donne le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1849, est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain, à cause d'un attachement pervers à certains biens. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Il a été défini comme une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Citation de saint Thomas d'Aquin, de saint Augustin. Une parole, un acte, un désir contraire à la loi éternelle. Nous allons creuser ça un petit peu. Le péché est une offense faite à Dieu. Contre toi et toi seul, j'ai péché, dit le psaume, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Le péché se dresse contre l'amour de Dieu pour nous et en détourne nos cœurs. Comme le premier péché, il est une désobéissance, une révolte contre Dieu. Par la volonté de devenir comme des dieux, connaissant et déterminant le bien et le mal. Il est ainsi, pour reprendre une expression de saint Augustin, amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. C'est dans la Cité de Dieu. Par cette exaltation orgueilleuse de soi, le péché est diamétralement contraire à l'obéissance de Jésus qui accomplit le salut. Comment ça se fait que nous, petites créatures, nous puissions offenser Dieu? C'est mystérieux, c'est étonnant. Dieu, rappelez-vous, vous qui avez fait 50 théologies, hein, tout le monde a fait 50 théologies, c'est bon. Dieu est impassible dans sa divinité. Mais comment ça se fait qu'on puisse offenser Dieu. En lui-même, vous allez me dire que oh, cette petite pensée pas terrible sur telle personne, oh, mais comment Dieu, qui est au-delà de tout, qui est le tout autre, qui est incréé, comment est-ce qu'il peut être atteint par ma petite pensée tordue de ce matin? Comment est-ce qu'il peut y avoir un lien entre ce désir désordonné, cette parole de jugement que j'ai prononcée, cet acte que j'ai commis, et Dieu. Alors là, nous abordons un grand mystère, justement, très important pour comprendre que Dieu, il nous crée. Il est notre créateur et les théologiens diront qu'il y a une présence d'immensité. Pour mettre un mot sur cette réalité magnifique, nous sommes créés par Dieu. Il y a donc un lien que Dieu établit entre lui et sa créature en tant qu'il nous crée actuellement. La création, elle est actuelle. Et puis, Dieu non seulement il nous crée actuellement, ex nihilo, de rien, immédiatement, c'est-à-dire sans médiation. Il y a donc un lien immédiat entre mon créateur et ce que je suis dans mon être. Extraordinaire. Cela fonde, frères et sœurs, l'adoration. Je peux adorer, poser un acte d'adoration à n'importe quel moment de ma journée. Et dans la foi, je reconnais mon Créateur. Et je m'en remets entièrement entre ses mains et je me reçois entièrement de lui, de sa bonté, de sa sagesse. Et alors les théologiens diront, mais il y a un lien, une présence d'immensité pour dire, ben voilà, Dieu est présent à sa créature, bien sûr, à toute sa création. Si Dieu avait un petit moment de distraction, eh bien, ne serait-ce qu'un instant, il oublierait sa créature, eh bien, sa créature ne serait plus. Elle ne serait plus. Et alors, le fait que nous existions, même s'il y a des gens qui meurent, évidemment, tous les jours, quel que soit l'âge, ils existent. Il y a donc cette présence du Créateur qui continue à créer, puisque la création, encore une fois, n'est pas quelque chose de continuel, mais d'actuel. Même le démon, eh oui, Dieu ne détruit jamais sa créature. Il ne peut pas détruire sa créature, ça irait contre sa sagesse et son amour. Donc, Voilà que le démon continue d'être créé actuellement. Ça, c'est de l'ordre de l'être, voyez. Il maintient dans l'existence, deuxième acte, non seulement créer, maintenir dans l'existence, soutenir, mais aussi, comme nous sommes, nous, êtres humains, des êtres vivants, nous avons une vie. Nous sommes des êtres, nous existons, mais des êtres vivants. Alors on a une vie. On a une vie avec plein de dimensions différentes. Si vous voulez, on a une vie végétative, comme on dit, on respire. Heureusement. En ce moment, on respire un peu plus mal avec les masques, mais bon, on respire quand même. C'est un peu pénible hein, quand même, hein, avouons-le. Hein. C'est pas une situation normale. Bon. J'espère que cette situation anormale ne va pas trop durer, quand même. Bon, respiration, nutrition. Ah, il faut bien manger, il faut bien boire. C'est quelque chose de très fondamental. Et si nous ne buvons pas, vous voyez, dans les cas extrêmes, on parle de nutrition, vous voyez, des gens qui sont à l'extrême, à l'extrémité, mais on continue à les alimenter. La nutrition. Arrêter la nutrition, c'est dire au revoir, vous voyez. Et puis, ce qu'il y a encore de plus fondamental, il y a l'instinct aussi, au niveau de l'instinct, il y a l'instinct sexuel. Voilà. Qui touche non seulement l'individu, mais l'espèce, parce que, évidemment, pour que l'espèce continue, il faut bien que des messieurs et des madames se rencontrent. Bon. Vie végétative, vie sensible avec tous nos sens, vous voyez, toutes nos passions, nos sens, avec nous avons des sens internes, des sens externes, bref, je ne vous refais pas. Donc on a une vie passionnelle, on a une vie sensible, on voit des choses, on entend des choses, on touche, on sent non seulement avec notre odorat, mais on sent intérieurement, vous voyez, on a une estimative, on se dit, ah, tiens, là, dans cette boîte-là, qu'on appelle boîte de nuit, par exemple, cette boîte-là, je sais pas, je me sens pas très bien, mais c'est normal, tu as une estimative, tu sens que c'est pas très bon pour toi, quoi. Voilà. Donc tu es en bonne santé, on dira. Tu sens bien les choses. Et puis, il y a la vie spirituelle, bien sûr, d'intelligence et de volonté. N'oublions pas la mémoire aussi, qui joue un très important. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, de par notre nature, notre dimension spirituelle de notre être. Dieu est esprit. Et voilà que les anges sont des réalités purement spirituelles. Et voilà que nous, êtres humains, nous sommes un horizon entre deux mondes, disait saint Thomas, c'est-à-dire à la fois cette réalité spirituelle très profonde, avec des particularités de la vie de l'esprit, et puis, bah, quand on a mal aux pieds, bah, on a mal aux pieds. Hein. Pénible, hein, cet orteil hein, qui vous rappelle tout le temps que vous n'êtes pas purement spirituel. Et nous sommes tout ça. Et au cœur de tout ça, et c'est bien le cœur dont il s'agit justement, ce cœur biblique qui est le siège de nos opérations vitales. Notre intériorité, notre sanctuaire, la profondeur de notre âme, si vous voulez. Plusieurs mots pour exprimer cette réalité de notre profondeur. Là où Dieu veut faire sa demeure, alors non seulement il est créateur, mais il veut faire sa demeure en nous. Il est fou. Il veut faire sa demeure en nous comme il ne fait pas sa demeure dans les arbres, dans les chiens, dans les chats. Nous avons un statut tout à fait unique et particulier car notre cœur humain est le lieu où Dieu veut faire sa demeure. Alors il vient faire alliance, Adam et Ève. Ok. Adam et Ève vivent dans la divine volonté, vivent dans la grâce. Le péché de nos premiers parents, c'est quoi? On a vu? Désobéissance. Conséquence, on chasse Dieu de notre cœur. Ah? C'est ça le péché? Oui. Quand tu dis à Dieu, je ne veux pas de toi, il s'en va. Ah Ah bon, c'est pas symbolique ces histoires-là, non, c'est réel, présence réelle. Présence de grâce, disent les théologiens. Mais la présence de grâce, la grâce incréée, qui est une grâce créée, participation à la nature divine, à la vie de Dieu. Alors quand Dieu vient dans mon cœur, est-ce qu'il vient réellement ou pas? Eh ben oui, c'est réel. Vous voulez dire par là que le Père, la personne du Père vient dans mon cœur? La personne divine? Ben oui. Et la personne divine du Fils? Oui. La personne divine du Saint-Esprit? Oui. Nous sommes le temple de la Sainte Trinité. Chacun. En tout cas, chaque baptisé, vous voyez. C'est ça, il y a une distinction. Sans séparation. Sans exclusion. Mais pour dire que le désir de Dieu, le soir de la chute, lorsqu'il est chassé du cœur de l'homme, il vient frapper au cœur de l'homme en disant, s'il te plaît, tu peux me réouvrir, s'il te plaît, parce que là, tu m'as chassé et c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Alors, le péché atteint Dieu? Ben, il atteint Dieu en tant qu'il ne fait pas semblant d'être dans notre cœur. Présence réelle. Hein? Donc, quand je pêche, je fais quoi? Après, il y a la modalité, en pensée, en parole, par action et par omission. Ça, c'est le mode, si vous voulez. Mais le péché dans ce qu'il est, c'est un acte par lequel je désobéis à Dieu. Il est où Dieu? Il est au ciel. Il est où Dieu? Il est dans ton cœur. Au ciel et dans ton cœur. Au plus haut des cieux, mais lié à toi. Il s'est lié à toi et il ne fait pas semblant d'être présent en toi. Donc, quand par un acte, tu désobéis, tu dis au Seigneur, laisse-moi tranquille. Je veux faire ce que je veux convoiter ce que je veux regarder ce que je veux dire ce que je veux vivre ma vie sans toi. D'accord? Le cœur de l'homme. Jésus dit, du cœur en effet procèdent mauvais desseins, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, diffamation. Voilà les choses qui rendent l'homme impur. C'est-à-dire mélangé. T'es un petit peu avec le Seigneur et puis t'es un petit peu pas avec lui. Alors, nous voyons bien que le péché atteint le Seigneur. En tant qu'il est lié à nous, en tant qu'il est vraiment en nous, en tant qu'il est... Ça l'intéresse notre vie, vous comprenez? Notre intériorité, le temple que nous sommes, ça l'intéresse. Il veut être avec nous, il veut dialoguer avec nous, il veut partager sa vie avec nous, il veut nous parler, il veut nous partager des trucs, il veut nous dire, mais tu veux pas partager ma vie divine, dans la divine volonté, c'est trop bien. Tu veux bien? Alors, quand tu iras prendre ton métro, ben, tu iras prendre ton métro avec moi. Et puis, quand tu iras faire tes courses, tu iras faire tes courses avec moi. Et puis, quand tu iras voir un tel, ben, tu iras avec moi. Et ainsi de suite, tu apprendras à vivre avec Emmanuel, Dieu avec nous. Et puis quand tu veux faire quelque chose en dehors de moi, sans me demander mon avis, en faisant ta petite vie parallèle, ben je te laisserai tranquille, parce que c'est ton choix, tu es libre. Mais Dieu est offensé. Il est offensé parce que l'alliance que Dieu vient tisser, sceller avec nous, elle est réelle. Quand Dieu se donne, il se donne, il ne fait pas semblant, il ne donne pas quelque chose de sa présence, il ne donne pas un petit bout. Eh bien, quand Dieu se donne, il se donne. Est-ce qu'il peut donner moins que Dieu, Dieu, quand il se donne? Ben non, il donne Dieu. Ah, ben voilà, on comprend un petit peu mieux ce que c'est. Mais heureusement qu'il y a quand même Saint-Luc qui ferait une petite distinction qui nous aide bien entre le cœur de l'homme qui est malade, dit l'Écriture. Ben oui, parce qu'on est, voilà, héritier d'Adam et Ève. Mais il y a le trésor du cœur, ouf! Ah voilà, là c'est le plus profond encore, mais c'est là où le Seigneur se trouve, le sanctuaire intérieur, inviolable, là où le démon ne peut pas venir. Sauf si on lui laisse la porte grande ouverte. Hein. Mais sinon, on est un sanctuaire, inviolable, vous voyez. On a chacun de nous un jardin, un Éden, voilà. Et le Seigneur a mis ses séraphins et ses chérubins pour empêcher d'entrer qui que ce soit, parce que nous, si vous voulez, on ne voit pas toute l'amplitude du désastre et du chaos que provoque le péché. On ne voit pas. Ben sinon, peut-être qu'on pécherait moins, voyez. Mais on ne voit pas. Alors, la gravité du péché. Après avoir vu ce que c'est que le péché, je pense que vous avez compris. Et comment est-ce qu'on peut dire, mais est-ce qu'on offense vraiment Dieu? Ben oui. En tant qu'il se lie à nous, et que le fait qu'il se lie à nous, ben, il ne fait pas semblant de se lier à nous. Il se lie vraiment, réellement à nous. Il nous aime, il ne fait pas semblant. Alors, il y a, dans l'enseignement de l'Église, à la suite de l'Écriture, bien sûr, une distinction importante lorsque nous parlons de la gravité du péché, sur laquelle je vais revenir maintenant. Parce que j'espère que ce que je vous dis ne vous effraie pas trop, quand même. Hein? Si quelqu'un voit-il son frère commettre un péché ne conduisant pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il ne s'agit pas de ceux qui commettent le péché conduisant à la mort, car il y a un péché qui conduit à la mort. Pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il faut prier. Toute iniquité est péché. Mais il y a tel péché qui ne conduit pas à la mort. Ça, c'est les versets 16 et 17 du cinquième chapitre de la première lettre de Saint Jean. Il y a donc dans la tradition de l'Église, tradition apostolique, Saint Jean, une distinction entre le péché mortel, qui cause la mort, et le péché véniel. C'est non seulement une doctrine fiable, mais ça corrobore l'expérience. Bien sûr. Alors voyons un petit peu ce que c'est que cette distinction, cette différence entre le péché mortel et le péché véniel, et pourquoi cette distinction est importante. Le catéchisme, au paragraphe 1855 et suivant, nous dit « Le péché mortel détruit la charité dans le cœur de l'homme par une infraction grave à la loi de Dieu. Il détourne l'homme de Dieu, qui est sa fin ultime et sa béatitude, en lui préférant un bien inférieur. » Infraction grave, détournement. Alors, on se détourne. En attaquant en nous le principe vital qu'est la charité, eh bien, cela nécessite une nouvelle initiative de la miséricorde de Dieu et une conversion du cœur qui s'accomplit normalement dans le cadre du sacrement de la réconciliation. Saint Thomas d'Aquin est cité en disant « Lorsque la volonté se porte à une chose de soi contraire à la charité, par laquelle on est ordonné à la fin ultime, le péché par son objet même a de quoi être mortel. » Qu'il soit contre l'amour de Dieu, comme le blasphème, le parjure, etc., ou contre l'amour du prochain, comme l'homicide, l'adultère, etc. En revanche, lorsque la volonté du pécheur se porte quelquefois à une chose qui contient en soi un désordre, mais n'est cependant pas contraire à l'amour de Dieu et du prochain, telles que paroles oiseuses, rires superflus, etc., de tels péchés sont véniels. Bon. Le péché mortel est une possibilité radicale de la liberté humaine comme l'amour lui-même. Il entraîne la perte de la charité. la privation de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire l'état de grâce, s'il n'est pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu, il cause l'exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle de l'enfer. Notre liberté ayant le pouvoir de faire des choix pour toujours, sans retour. Cependant, si nous pouvons juger qu'un acte est en soi une faute grave, nous devons confier le jugement sur les personnes à la justice et à la miséricorde de Dieu. Bien sûr, merci de mettre cette phrase, parce que sinon, on enfermerait beaucoup de gens, vous voyez, dans « Ah voilà, il a fait un péché mortel, donc il a perdu l'état de grâce, donc il est voué à l'enfer. » On peut juger les actes qui, objectivement, sont qualifiables. Mais les personnes, laissons le Seigneur s'en occuper. Vous voyez, c'est très important cette distinction. Ne condamnons jamais personne. N'enfermons jamais personne. Même dans son péché qu'on a repéré. Même dans le péché dont on sait qu'il est grave. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous pouvons prier pour que cette personne, « Seigneur, tu t'en occupes, moi je prie et je m'offre à toi pour elle. » Offrir sa vie pour les pécheurs, c'est quelque chose de concret. Car il y a cette gravité, justement, du péché. Soit péché mortel, soit péché véniel. Vous avez compris que le péché mortel donne la mort, c'est-à-dire perte de la charité, privation de la grâce sanctifiante, de l'état de grâce. Bien sûr, le pécheur peut toujours se repentir jusqu'au dernier moment. Rappelez-vous ce passage que j'aime beaucoup, ce moment où la mère d'une personne qui s'est suicidée va voir le curé d'Ars. En pleurs, bien sûr. Elle dit « Mon père, c'est foutu. Mon fils s'est suicidé. » Et le curé d'Ars de répondre « Entre le pont et l'eau, il y a encore le temps de la miséricorde. Voilà le regard juste du saint curé qui dit « Ben, il y a l'acte et puis il y a la personne. » Vous voyez, Dieu s'occupe de la personne. Dieu miséricordieux est toujours là pour nous récupérer, j'allais dire. S'il y a il trouve une ouverture dans notre cœur, comme le larron qui n'avait rien de bon et qui au dernier moment se repent et qui reçoit cette parole époustouflante « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » On ne peut pas dire qu'il ait bien commencé, mais il a bien fini. Donc, n'enfermons jamais personne, mais c'est une distinction essentielle et réelle qui correspond à la réalité. Alors, le catéchisme continue en disant « Pour qu'un péché soit mortel, trois conditions sont ensemble requises. » Et péché mortel, tout péché qui a pour objet une matière grave et qui est commis en pleine conscience et de propos délibérés. Il y a donc trois conditions. Et il faut que ces trois conditions soient réunies ensemble pour que le péché soit mortel. Il y a d'abord l'aspect de la matière. La matière grave, plus ou moins grave. Si vous voulez, un meurtre est plus grave que voler une pomme. Vous êtes d'accord? Bon. Donc il y a la matière grave, qui est précisé par exemple par les 10 commandements, selon la réponse de Jésus au jeune homme riche, « Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère, etc. » La matière. La pleine connaissance. Ça c'est le deuxième. Deuxième condition. Il présuppose la connaissance du caractère pécamineux de l'acte, de son opposition à la loi de Dieu. C'est-à-dire que pour quelqu'un, pour que le péché soit mortel, il faut que la personne sache que c'est un péché, et que cet acte-là est opposé à la loi de Dieu. Et alors, pour juger du degré d'ignorance et de connaissance, pas facile. Pas facile. Ah, je ne savais pas. Et puis, y a les gens qui peuvent commettre des choses graves, elles ne savaient pas. Bon. Et là donc, on voit l'importance de ce qu'on appelle former sa conscience par l'éducation, etc., etc. Donc, deuxième condition, très importante, il faut la pleine connaissance. Et troisième condition, l'entier consentement. Il implique aussi un consentement suffisamment délibéré pour être un choix personnel. L'ignorance affectée, volontaire, et l'endurcissement du cœur ne diminuent pas, mais augmentent le caractère volontaire du péché. C'est-à-dire que il faut savoir que c'est hyper grave, que Dieu n'est pas d'accord, et je le fais quand même. L'ignorance involontaire, nous dit le catéchisme, peut diminuer, sinon excuser, l'imputabilité d'une faute grave. Mais nul n'est censé ignorer les principes de la loi morale qui sont inscrits dans la conscience de tout homme. Un problème? À la conscience, on ne sait pas bien. Écouter son cœur, je ne sais pas, moi, je suis tellement englué dans ma sensibilité, dans mes passions, je ne sais pas, dans mes peurs, dans la pression familiale, dans la pression de quelqu'un. Il m'a dit, si tu ne fais pas ça, je vais te dénoncer, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Il y a des actes comme ça qui sont, vous voyez, faits avec une pression énorme. Donc, nous dit le catéchisme, les impulsions de la sensibilité, les passions peuvent également réduire le caractère volontaire et libre de la faute, de même que des pressions extérieures ou des troubles pathologiques, bien sûr. Vous voyez? Donc, encore une fois, n'enfermons personne, ne réduisons pas la personne qui est un être bien-aimé de Dieu dans ses actes qui peuvent être dangereux pour son âme et pour son éternité, en effet, pour son éternité. Et donc, il y a donc le péché mortel qui cause la mort, c'est-à-dire lorsqu'on dit que le péché mortel, avec le péché mortel, on perd la charité, on est privé de la grâce sanctifiante, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne frappe pas à nouveau à la porte de notre cœur, mais il frappe à la porte de notre cœur parce qu'il n'y est plus. Parce qu'on l'a chassé. Et donc, on peut se repentir. Comment est-ce qu'on fait pour se repentir? Eh bien, c'est encore par la touche de la grâce, encore de ce Dieu fidèle et miséricordieux qui nous dit « Reviens, 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 s'il te plaît, reviens. » Le repentir et le pardon de Dieu. Donc, pour être réconcilié avec Dieu d'un péché mortel, il faut vraiment s'en repentir. Et alors la voie normale que connaît l'Église, c'est évidemment le sacrement de réconciliation. Il y a ensuite, nous dit le catéchisme, un paragraphe très important, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas remis. Il y a un péché contre l'esprit qui n'est pas remis. Quel est-il? Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit-Saint. Un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle. Si Dieu frappe à la porte de notre cœur pour nous dire « Reviens », eh bien, comme nous sommes des êtres libres, jusqu'au dernier moment, on peut dire non. C'est ça le péché contre l'Esprit, c'est de refuser jusqu'au bout la miséricorde de Dieu. Dieu aura tout fait pour nous rattraper. Et on ne peut l'accuser de rien. Car de son côté, il a tout dit, tout fait, tout, 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 tout. Il a envoyé des évangélisateurs, il a envoyé des prêtres prêcher, il a envoyé des... Il a envoyé, il a fait... il a la Bible, il y a tout, 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 Radio Maria, tout, tout, il a tout fait. Pour que tout homme, toute femme se tourne vers Jésus. Et en accueillant sa miséricorde, puisse accéder au salut. Et donc quelqu'un qui s'obstine jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à son dernier acte ici-bas, eh bien, il aura l'éternité qu'il veut. Soit on entendra, ben, entre dans la joie de ton maître, voilà, viens béni de mon père. Soit on dira, ben, écoute, tu as choisi l'enfer, vas-y, c'est ton choix. Donc nous voyons bien que lorsque nous parlons de péché, nous parlons de choses très importantes quand même. Et évidemment, il y a en ce moment sur cette planète des gens qui jouent avec le feu. Et encore une fois, on ne va pas juger les personnes et enfermer les gens dans leurs actes, mais il y a des choses qui sont gravissimes. Lever sa main à 3 h du matin dans une assemblée nationale en étant d'accord avec la prolongation du délai d'avortement, eh bien, ce n'est pas un geste anodin. Et ce qui est merveilleux, c'est que tout homme, toute femme devra rendre compte. On ne triche pas devant Dieu. On peut mentir aux hommes toute sa vie, mais on ne peut pas mentir au Seigneur. Nous avons une conscience. Et cette conscience, elle demande d'être éclairée. Et devant la lumière qui lui est donnée, eh ben, de poser un choix éminemment personnel que personne ne peut poser à notre place. Alors il y a le péché véniel. Celui-là, vous allez me dire, ouf, hein? Parce que pour la plupart, quand même, on commet un péché véniel. Ah, respirez, tiens. Quand on n'observe pas dans une matière légère la mesure prescrite par la loi morale, ou bien quand on désobéit à la loi morale en matière grave, mais sans pleine connaissance ou sans entier consentement. Il laisse subsister la charité. Ah, bon. Même s'il l'offense et la blesse. Ne diminue pas la grâce sanctifiante, mais cause la tiédeur. Oui, parce que la grâce sanctifiante, elle est tout le temps bouillante. Mais c'est de notre côté à nous, eh ben, si vous voulez, ben, on n'en prend qu'un petit peu, quoi. Et du coup, on est tiède. Et donc, la tiédeur empêche le rayonnement plaigné de la vie de Dieu en nous. C'est de la boue, ce n'est pas de l'acide sur un tableau, mais c'est de la boue, de la poussière. Alors le péché véniel peut être non prémédité, mais si le péché est délibéré et entretenu, un vice par exemple, est délibéré, il y a un risque d'aller petit à petit, hein, une pente quand même glissante, vers le péché mortel lors d'une tempête. Voilà. Donc attention tout de même, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Le péché véniel affaiblit la charité, il traduit une affection désordonnée pour des biens créés, il empêche les progrès de l'âme dans l'exercice des vertus et la pratique du bien moral. Il mérite des peines temporelles. Ben oui, si tu veux regarder un film pornographique, ben, c'est sûr que tu auras des peines dans ton lien avec ton épouse ou avec ton entourage. Ben ça, tu vas être marqué par les conséquences de ton péché. Voilà, par exemple. C'est ça ce que veut dire le catéchisme quand il dit il mérite les peines temporelles. C'est-à-dire que nous sommes encore dans le temps et nous pouvons nous convertir, à la différence de la peine éternelle. Ben là, c'est trop tard. On a choisi son éternité. Voilà. Le péché véniel délibéré et rester sans repentance nous dispose peu à peu à commettre le péché mortel, je l'ai dit. Cependant, le péché véniel ne rompt pas l'alliance avec Dieu. C'est en quoi il n'est pas mortel. Voilà. Mais il est attiédissant, il est, vous voyez, c'est mou, c'est lent, c'est fade, c'est médiocre, c'est petit, c'est. Voilà quoi. Hein? Bon. Il est humainement réparable avec la grâce de Dieu. Il ne prive pas de la grâce sanctifiante ou déifiante et de la charité, ni par suite de la béatitude éternelle. Alors voilà un petit peu. Bien sûr, le péché véniel, comme tous les péchés. Voilà. Nous parlerons de la prolifération du péché. Et parce que je voudrais voir un petit peu avec vous, un peu dans le détail. Bon, on fera une catéchèse, je pense, sur les 10 commandements et puis sur les péchés capitaux. Et bien sûr, après, on enchaînera. Mais voilà, comment se réconcilier, comment bien se confesser, puis comment vivre en réconcilié. Voilà, tout ça va bien se finir. C'est un passage un peu délicat, mais en même temps réel. Donc, c'est bien de passer par là, je pense, il me semble, pour voir un petit peu ces choses dont on parle de moins en moins, quand même. Mais donc voilà, ici à Radio Maria, en tout cas, j'ai choisi d'en parler pour nous éclairer, pour nous aider à avancer, évidemment, c'est pas pour nous culpabiliser. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.